Ce podcast vous est proposé par Pix+. Retrouvez le meilleur de la télé, films primés, Ligue des champions, séries, talk-shows, concerts et magazines. Tout ça vous attend dans l'offre télé Pix+. Pour plus d'informations, jetez un œil à la description.
Salut, je m'appelle Maxime Demierre et vous écoutez Caractère.
Mon père vient du milieu ouvrier, il a été manutentionnaire, mais je le voyais tous les jours en train de lire, en train de s'informer. Toute la pensée autour de la culture, je lui dois. Si j'avais grandi dans un autre milieu, je ne ferais pas ce métier.
Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir un homme dont le cinéma français est tombé éperdument amoureux. Son nom, c'est Karim Leclou. Une gueule, un regard perdu dans le vague qui contemple ses 14 ans de carrière et plus de 38 films et séries au compteur.
Je prenais du plaisir en tant que spectateur à regarder le cinéma. Je m'imaginais pas être acteur et je travaillais, je faisais du télémarketing souvent, en intérim, je faisais plein de petits boulots.
Alors à l'occasion de la sortie de son film « Vincent doit mourir », on a pris le temps, ensemble, de revenir sur certains de ces personnages qu'il a incarnés à l'écran. Et puis vous le savez, un sujet en amenant un autre, on a divergé.
Waouh! Mes rêves, c'est, je sais pas, d'aller en vacances avec mes potes en Espagne.
L'occasion de l'entendre nous raconter son parcours atypique, sans oublier un destin qui s'est construit en allant répéter dans des McDo ses premiers textes pour décrocher un rôle dans Un prophète de Jacques Audiard. Bonne écoute.
Bon, salut Karim, comment tu vas?
Ça va très bien, et vous, ça va?
Écoute, tu peux me tutoyer.
Ah, voilà, j'attends.
On peut se tutoyer.
Alors, si on peut se tutoyer, je vais te tutoyer, alors ça va très bien, merci.
Écoute, Karim, je parle d'un petit constat. J'ai l'impression de te connaître à travers tes rôles, mais je suis sûr que t'es une personne complètement différente. Genre, clairement, dans Vincent doit mourir, tu tues pas tout le monde dans la rue.
Ouais, puis je suis pas graphiste à la base. Surtout, en vrai, j'ai plus de chances d'avoir des embrouilles que d'être graphiste.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on essaie d'apprendre à mieux te connaître.
Ouais.
En partant des personnages que t'as joués.
Okay, ça va.
Et j'ai envie de commencer avec un court-métrage. Mm-hmm. Qui s'appelle Marseille la nuit, dans laquelle, on peut le dire, t'as un peu été révélé.
Ouais, complètement, c'est le film qui m'a permis de travailler. C'est le film de mon ami Marimon, je l'ai fait avec un comédien qui m'est cher, qui est Sharif Hounghen. Il m'a permis de travailler sur d'autres longs-métrages, et c'est la première fois que j'avais un rôle principal à l'écran, et c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup aidé.
Alors dans ce film, on découvre Teddy et Elias. Tous les deux ont 25 ans, ils traînent un peu, ils dealent un peu, ils habitent à Limoges, mm-hmm. et ils rêvent d'aller à Marseille. Mm-hmm. Et ton personnage, pendant tout le film, porte un survêt assez collector de West Ham.
Ouais.
Époque 1975-80.
Exactement.
Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que ce survêt, c'est pas le compromis entre ton personnage qui rêve de Marseille et qui, du coup, porterait le survêt de Marseille et l'acteur qui est fan du PSG?
Non, c'est rigolo comme question. Ça, c'est super rigolo. Non. En vrai, c'était une vraie... Pour répondre très premier degré, c'était une proposition de ma part. Parce que j'aime beaucoup l'Angleterre. Et je m'intéresse à la Première Ligue aussi. J'aime le foot en général. Et du coup, je trouvais le logo très fort. C'est quand même un château avec, en sens interdit, des sigles ouvriers. Et du coup, je me disais que... Voilà, je trouvais que c'était justement une veste assez belle et passe-partout et qui rendrait pas justement une thématique franco-française quand on a fait le film. Voilà. C'est ça qui m'a intéressé quand j'ai pris le... C'était pas un compromis, parce que même je me disais Limoges, en vrai, Limoges, pour moi, ça évoque le basket. Quand j'étais petit, ouais, je me souviens de... Je crois que c'est Beaublanc, leur salle, quand ils ont été champions d'Europe, avec Frédéric Forté et tout. J'ai des souvenirs de jeunesse liés à Limoges, à ça. À cette Coupe d'Europe avec de Richard Dacoury.
Voilà. Mais du coup, si je te parle de foot, c'est parce que je sais que tu es un très grand fan, je sais que tu joues à Football Manager de temps en temps, et surtout, je t'ai entendu dire dans une interview un truc qui, je pense, parle à beaucoup de gens, qu'ils soient fans de foot ou pas, c'est que les grosses compétitions, genre la Coupe du Monde, c'est des repères temporels pour toi.
Ouais, parce que c'est vrai, c'est tous les 4 ans, et ça, on se souvient souvent de là où on était, de ce qu'on a fait. Quand l'équipe nationale que vous soutenez, elle va loin, vous vous souvenez, c'est aussi une façon de se revoir avec les amis. Puis plus le temps passe, plus c'est des moments que je trouve festifs et heureux. Et je trouve que des fois, le pouvoir du football, il a plein de choses négatives, mais il y a quand même ces choses très heureuses où les gens se réunissent et puis les émotions que ça provoque.
Alors si je te dis 98, je te replonge dans quel souvenir là?
Zidane. C'est Zidane président, bien sûr, ouais, c'est... Je l'ai regardé avec mon père, parce que j'adorais regarder les matchs de foot avec mon père à l'époque. Et du coup,
ça a été un moment pour moi très heureux. Et puis de voir Zidane et Djorkaeff sur le toit du monde, parce que j'adorais vraiment ces deux joueurs. C'était quelque chose de très fort. Et puis la communion collective. Après, je suis sorti avec des potes, remonté sur Paris, tout ça, fêter la victoire. Et puis c'était juste un moment de joie, voilà. Simple.
En 98, t'as quoi, 16 ans, un truc comme ça?
Ouais, je vais avoir ça, ouais, 16 ans.
Et c'est quoi un peu tes rêves d'ado à ce moment-là?
Waouh! Mes rêves, c'est, je sais pas, d'aller en vacances avec mes potes en Espagne. Non, mais c'est vrai, je crois que je me cherchais un peu, j'avais pas d'objectif très précis. Je me disais que je devais éventuellement essayer de ramener le bac pour mes parents, pour les rassurer.
C'est un truc qui était important pour eux?
Ouais, je pense que ça les rassurait, et puis c'était aussi... une façon de voilà, c'était un... à l'époque j'étais en cours, donc mon boulot c'était d'essayer de ramener le bac, voilà. Comme ils avaient la gentillesse de m'héberger, de me nourrir, de me blanchir, enfin j'ai eu de la chance, quoi. J'ai eu des parents aimants, et donc voilà, je voyais mon père, parce qu'il était ouvrier, du coup il y avait ce truc de passer des bons moments avec ses potes tout en faisant pas trop de vagues pour pas trop faire de soucis à ses parents.
On a commencé un peu à cette discussion en parlant de foot, et tu connais, lorsqu'on parle de foot et qu'on a un certain niveau, mais qu'on n'arrive pas à devenir pro, l'excuse c'est un peu « je me suis fait les croisés, j'aurais pu y arriver, j'ai jamais fait ».
Moi, manifestement, j'avais deux pieds gauches.
Alors attends, je vais revenir à Teddy, ce que Teddy dans Marseille la nuit dit ce truc que je trouve assez rigolo, et qui est un peu l'équivalent du joueur de foot, qui dit « Ouais, en fait, j'aurais pu aller loin dans le poker, ouais. mais je peux pas, maintenant, je joue juste avec Patrick Bruel à PokerStars. »
Ouais, parce qu'on l'a fait à une époque où c'était d'actualité, c'était pour... On voulait... Je pense qu'à cette époque-là, en plus, il y avait un truc où encore... parce que moi, je vivais pas du tout de ma passion de comédien, j'avais des petits boulots, je faisais parfois des paris en ligne, des trucs comme ça, donc c'était une façon aussi de rigoler autour d'un mode de vie où, bien évidemment, il y avait c'est complètement de l'illusion, ou en tout cas dans beaucoup de cas, de croire qu'on va gagner de l'argent dans les jeux de paris sportifs, etc.
Et ah, donc ça vient un peu de toi, cette histoire de...
Ouais, c'était une impro, et c'était... Là, on parlait beaucoup de paris sportifs, de choses comme ça, à l'époque, même dans le film, et c'était parce que... C'était sûrement des sentiments de vie à l'époque qui par lesquels j'étais traversé, quoi.
Ah, okay.
Et voilà, c'était une façon de dire que le gars s'invente aussi un monde où en fait il est personne.
Et alors ce film, ça a été un peu un déclic où tu t'es dit « Ouais, je peux arriver à devenir acteur et en vivre ou pas ?»
Non, ce qui a été un déclic en tout cas sur ce film pour moi, c'est que c'était vraiment qu'on l'a... C'est le film aujourd'hui que je considère pour moi être comme une amie, Marie Monge. Et c'était un film d'un élan de jeunesse. Il y avait justement... Moi, je commençais juste un tout petit peu à travailler, mais vraiment un tout petit peu. Et ça a été le film, en fait, ça a été un déclic sur le travail. Voilà. C'est un film qu'on a énormément répété, sur lequel on s'est beaucoup investi avec Sharif Hounougan et les autres acteurs, parce qu'il y a d'autres acteurs comme Jérémy Laherte, Walid Ben Mabrouk, t'as le Maisy, en fait, qui sont devenus Gary Mehel et Aïnou. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs, en fait, qui ont travaillé par la suite. Et c'était surtout beaucoup, beaucoup de travail, et ça a créé des automatismes chez moi de travail, et de me dire qu'en fait, un film, ça se prépare, et même un moyen-métrage, parce que c'est le cadre d'un moyen-métrage, court-métrage, quoi. Ça a créé des automatismes de travail chez moi, c'est-à-dire de beaucoup répéter, d'aller au-delà des rôles, de mettre un peu de soi dans les impros, d'essayer de construire avec la réal, de pouvoir discuter autour de l'écriture. Avec Sharif, on a répété presque 3 mois comme ça, à l'arrache, entre amis, mais je veux dire dehors, quoi, sans salle de répétition, mais vraiment dehors ou autour de cafés. On allait prendre des cafés, puis on se disait le texte, comme ça. Et voilà, c'était pas les lieux idéaux pour construire, je veux dire, il n'y avait pas tous les jours la salle de répétition, le truc, mais ça a créé une envie et des automatismes de boulot qui m'ont beaucoup servi par la suite.
Comment tu t'imaginais ce métier d'acteur, en final?
Bah, avant, je le vivais comme spectateur, c'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, quand je me disais...
Tu rêvais des vacances avec les potes?
Ouais, où je me disais, l'ambition immédiate, je partirais bien à Salou, je partirais bien... Voilà, non, mais c'était... j'imaginais... Je prenais du plaisir en tant que spectateur à regarder le cinéma. Mais je m'imaginais pas être acteur, et puis fait, je travaillais, je faisais du télémarketing souvent, en intérim, je faisais plein de petits boulots. Et un jour, j'ai fait des cours de théâtre du soir parce que juste, j'avais envie d'essayer. J'avais envie d'essayer, mais sans me rêver acteur, juste pour me libérer la tête. Parce que quand vous passez 8 heures par jour à répéter parfois un même discours ou à peu près, à un moment, vous avez besoin de faire d'autres choses, quoi. Et souvent, avant de me lancer en tant qu'acteur, j'allais souvent au cinéma après ces journées de boulot. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller faire des cours du soir. Et je suis parti faire des cours du soir tout en travaillant la journée. Et j'ai commencé à apprécier, à me sentir bien. J'ai eu la chance de faire un petit rôle sur Un prophète de Jacques Audiard.
Tu révisais avec t'as le Maison.
Ouais, on a révisé toute une journée. C'est assez joli parce que t'as jusqu'à aujourd'hui je travaille avec lui. Souvent dans ce métier vous devez aux autres le fait de le faire. Par exemple, moi, je dois beaucoup à mon ami, à mon grand pote, Tahal Omeizi. C'est sûrement grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver face à toi. C'est-à-dire que je lui dois beaucoup dans le fait, là aussi, des automatismes de travail, puisqu'on était en cours ensemble, qu'après, on passait des castings ensemble, on s'est aidés, et ça, ils m'aident toujours. C'est vraiment un super ami, un super acteur, et je lui dois beaucoup.
Mais c'est marrant que tu parles justement de devoir, parce que j'avais une question qui va nous amener à un autre film dans lequel tu as joué, qui s'appelle La Source des Femmes,
ouais.
2011. Tu t'en souviens un peu ou pas?
Ouais, complètement.
Première apparition, je pense, avec Leïla Bekti,
dans un
même
ça.
Film.
Ouais.
Alors, je vais pitcher rapidement. Donc, ça raconte, depuis la nuit des temps, les femmes vont chercher de l'eau de source et elles décident du jour au lendemain d'arrêter et de plus faire de câlins ni de sexe avec les hommes tant qu'ils n'iront pas. Et en fait, dans ce film, il y a une scène où tu m'as beaucoup touché et je me suis dit tiens est-ce que ça lui arrivait ça tu vas voir le personnage de Samy.
Ouais, mais parce que c'est joué par un acteur extraordinaire et en fait lui me touchait, c'est Saleh Bakri.
Saleh Bakri, tout à fait. À qui tu dis en fait moi je rêvais de devenir écrivain, je rêvais de devenir comme toi, que tu m'aides et ensuite de m'affranchir. Est-ce que tu as eu dans tout ce parcours un mentor qui t'a accompagné comme ça ou pas?
Si je dois répondre honnêtement et maintenant avec le temps qui passe, je pense que mes parents, quand je disais en rigolant que mon job c'était de ramener le bac, ou en tout cas cette idée-là, je crois que ce qu'ils m'ont transmis, l'élévation par la culture, la pensée, que c'était une chose importante, l'idée de pouvoir exprimer des choses, c'est pas parce mon père vient du milieu ouvrier, Il a été manutentionnaire, mais je le voyais tous les jours en train de lire, en train de s'informer, de chercher à... Il me montrait beaucoup de films et on regardait des films. Et du coup, je me suis dit que le mentor, peut-être principal que j'ai eu, c'était mon père. Pourtant, qui n'avait rien à voir avec ce milieu, mais en fait, toute la pensée autour de la culture, je lui dois. Et je crois que bizarrement, si j'avais grandi dans un autre milieu, je ne ferais pas ce métier. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, quelque part, lié chez moi, l'idée d'exprimer une voix différente. Et après, il y avait le domaine du rêve. Quand je fais La Source des Femmes, je me dis, est-ce que je vais continuer à faire ce métier? J'en sais rien. Il y a quelque chose de très, très volatile, très, très précaire à ce moment-là. Déjà dans ce métier, mais encore plus à ce moment-là pour moi. Et je me dis, c'est une chance extraordinaire. Et puis les discussions avec cet acteur, elles m'ont envoyé dans l'espace.
C'est-à-dire?
Je crois que pour la première fois, j'ai rencontré un artiste. C'est une chose très rare quand vous faites ce métier. Moi, je suis un acteur, je n'ai pas dit ouais. Mais tout d'un coup, j'ai vu une dimension qui... il y a le sol, puis il y a juste au-dessus. Les gars qui sont juste au-dessus, lui était juste au-dessus. Voilà, c'est quelqu'un qui avait la préoccupation de tout le monde. Il fallait voir sa simplicité. Je trouvais que, sans aucun tralala, je trouvais que c'était un type d'une profondeur assez exceptionnelle, d'une pensée belle, et je sais pas, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et c'était marrant parce que ces scènes que je répétais quand cette scène là où j'ai joué avec lui, c'est une scène que j'ai répétée au café des milliers d'heures avec mon pote Tahal Omeizi, parce que c'était en arabe dialectal et en derija en marocain, et moi je le maîtrise pas du tout, et il m'a aidé comme un dingue. Je crois qu'on a passé des heures dans un café chuchoué à boire des cafés, et tout d'un coup de se retrouver là, il y avait quelque chose de magique face à un si grand bonhomme qui... Je trouve que c'est une des scènes, moi, sur lesquelles le regard de quelqu'un me touche. C'est-à-dire que tout ce qu'il me donnait à travers son regard, juste et surtout à travers l'écoute, d'écouter l'autre et d'être avec l'autre, c'est quelque chose qui m'a rempli sur cette scène et qui m'a aidé. Je suis content qu'on évoque cette scène, parce que pour moi, ça me permet d'évoquer un des plus grands acteurs avec qui j'ai joué. Mais comme quand je parlais tout à l'heure de Sharif sur le travail, où je trouve que ça a été un acteur exceptionnel, et que le fait de... Et c'est un acteur exceptionnel, mais quand on a répété ensemble, tout ce qu'il proposait. Et on prend toujours aussi un peu chez les autres. Chez Salaire, je me rappelle de cette force d'écoute. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué dans son travail en jouant avec lui. Et quelque chose que, du coup, je me suis dit, tiens, il faut essayer de progresser dans l'écoute à l'autre quand tu joues. Parce qu'il n'y a pas que le fait de parler ou de vouloir exister. Il y a aussi comment tu regardes l'autre et comment tu le sers pour que ce soit bien.
C'est vrai que ça doit être... Ça doit être une des choses qui doit être, j'imagine, le moins évident à faire. Je voulais juste rebondir par rapport à, tu disais, tes parents, mentors. Comment ils ont réagi quand ils t'ont vu partir?
Mon père, je pense qu'il avait peur. Ouais. Je pense que je comprends. Maintenant, avec le recul, c'est tellement... Il me laissait, tout ça, mais il avait peur. Il avait peur que je m'en sorte pas, que j'arrive pas à travailler, que ce soit compliqué concrètement de gagner sa vie et de pas terminer à la rue, quoi, avec un projet qui paraissait financièrement compliqué. Et aujourd'hui, je le comprends amplement. Voilà. Et je pense qu'il avait peur. Qu'il avait peur, mais comme un père peut avoir peur pour son fils. Ma mère elle m'a toujours encouragé. Et fan, et mon père aussi, parce qu'il s'y est jamais opposé. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir, comme je te le dis, des parents à qui je dois énormément. Justement, la possibilité de rêver, d'écouter ses désirs, ou en tout cas de dire, voilà, tu travailles, tu essaies de faire tes trucs, tu as ton petit boulot, et vas-y. Et moi, je pense que c'est hyper important d'aller jusqu'au bout de ses désirs, mais même pour quelqu'un, je veux dire, s'il y a des jeunes acteurs qui regardent l'émission, d'essayer.
Et qu'est-ce qui t'a permis de comprendre son point de vue, du coup, à ton papa?
Ce qui m'a permis de comprendre, c'est peut-être aujourd'hui de partager déjà le sentiment de paternité. Déjà, ça, c'est quelque chose qui te fait évoluer de façon viscérale. La classe de cette éducation qui m'a transmise, parce que je parle de classe, parce qu'il y avait une classe humaine où il fallait... Enfin, en tout cas, il s'évertuait pour que je sois... Je trouve que la correction dont il faisait preuve, là, à tout moment, je sais pas, ce qu'il m'a transmis sans même mettre de mots, c'est quelque chose qui m'est resté. Je pense que c'est une des raisons, tu vois, quand on parlait de West Ham, mais au-delà, bien évidemment, du foot, c'était la classe des milieux populaires. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, en tout cas, un père très, très classe à ce niveau-là. Alors que je me disais, il y avait des moyens restreints et que, pour moi, c'est... J'étais mon héros, et encore plus aujourd'hui. Je me dis, je ne sais même pas comment il a fait, ou tu vois, pour tout simplement supporter une vie difficile, pour voilà, faire que je manque de rien, que que ce soit mon père ou ma mère, je dois les chérir tous les jours, tellement j'ai eu de la chance.
Ouais, c'est très beau. J'ai envie de passer à un troisième film, justement, qui parle un peu des quartiers populaires, c'est Goutte d'or.
Ouais.
Alors, question qui va être beaucoup plus légère. Dans Goutte d'or, tu joues Ramsès, médium. Qui manipule un peu les gens pour faire fructifier son business. Est-ce que le fait d'avoir un BTS en force de vente a permis de bien jouer ce personnage?
Ça a aidé. Mais encore que, parce que le BTS force de vente, je ne sais pas s'il y a un équivalent ici en Belgique.
C'est relation commerciale.
Voilà, mais maintenant, ils l'ont appelé aussi en France relation commerciale, parce qu'ils se sont dit, dans le mot force de vente, peut-être que dans l'énoncé, il y avait quelque chose de douteux.
Il y a un truc
douteux.
Capitaliste.
Oui, puis force. Il y avait quelque chose de... Presque, on l'aurait plus dit, vente forcée, ça aurait été plus direct. Et oui, ça m'a servi. Et après, il y avait un truc, justement, dans l'idée de vendre... Un produit, une chose, il y avait quelque chose qui m'a servi. Mais tout sert dans le rôle. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur la voix, de comment poser la voix dans les moments de consultation. Tout d'un coup, j'avais quelques notions aussi sûrement de télémarketing. Lui me parlait d'opéra et moi j'avais le télémarketing. Et c'était une rencontre entre le télémarketing et l'opéra. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on fait à côté sert ce métier. Et donc la force de vente m'a servi à comprendre l'idée de... Parce que parfois, vous pouvez avoir une relation honnête à la relation commerciale, c'est-à-dire vous faites un service, vous vendez quelque chose, et pour autant, vous n'êtes pas un escroc. Et c'est tout le parallèle de ce personnage. C'est-à-dire que pour moi, c'est un personnage que je ne vive pas comme un escroc, mais comme quelqu'un qui soulage des gens et des consciences en leur donnant des informations qu'eux-mêmes donnent, en étant un peu malin, mais finalement en soulageant les consciences. Mais j'avais du mal à le juger. Voilà. Je ne l'ai pas abordé comme un voleur ou un escroc. Puis le travail avec Clément Cogitor, je souhaite à tous les acteurs de travailler avec un tel réalisateur, tellement je trouve son univers passionnant.
Après ton BTS, force de vente, t'es en alternance, et tu vas bosser où, là, à ce moment-là?
Là, je travaille, je fais mon BTS force de vente à France Télécom, qui de passe Orange. Donc déjà, ça, c'était un truc assez passionnant, parce que j'ai vraiment vu une entreprise changer, et j'ai vu, là, des fois, la brutalité de ça. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient vraiment la notion du service public. Mmh. Tout d'un coup, être malmené sous prétexte de faire d'une rentabilité, mais presque excessive. Bon, il y avait en tout cas, qui a pas été une transition douce. D'ailleurs, en France, il y a eu l'affaire France Télécom, des gens qui se suicidaient, parce qu'il y avait vraiment une direction à un moment qui était violente, qui s'est pas fait dans la douceur. Et donc j'ai travaillé là, après j'ai fait 50 petits
boulots. Mais c'est un truc qui t'a marqué du coup, cette période?
Mais ouais, bien sûr que ça m'a marqué, parce que je voyais des gens, une entreprise changer, sans la comprendre, mais en discutant avec mes collègues et voyant deux écoles s'affronter, et que la notion de service public, quand même, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit, je veux dire, même demain, enfin... Il y a une urgence, il y a quelque chose qui se passe. À l'époque, il y avait des cabines téléphoniques. C'est-à-dire qu'un gars peut appeler gratuitement les pompiers, la police. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un portable, concrètement, vous ne pouvez pas les appeler. Et je trouvais que, voilà, par ces notions-là aussi, c'est quelque chose quand même que j'aime bien. Je suis plutôt sensible à l'idée des services publics. Et du coup, la transformation de l'entreprise était quelque chose qui m'avait franchement marqué, sans vraiment la comprendre, mais en y assistant et en regardant... Une chose qui change, voilà.
Lorsque tu joues dans Hippocrate, j'imagine que tu es toujours aussi sensible à ça?
Je suis d'autant plus sensible à ça que là, concrètement, on travaille avec des gens de Robert Ballanger. C'est-à-dire que là, on se rend compte, nous, acteurs, c'est une position privilégiée. Vous êtes très bien payés pour faire ce que vous avez à faire dans un temps où tout le monde vous chouchoute. Et puis nous, on avait aussi des collègues, du coup, et je pense particulièrement à une jeune fille, Séverine, qui joue avec nous et qui travaille à Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, et du coup, qui, elle, en plus d'être actrice, est capable d'enchaîner une journée de travail. Et je me dis, qui travaille dans des conditions où c'est des héros, puisque concrètement, ils pourraient gagner 3 ou 4 fois plus ailleurs de façon assez facile, mais qu'ils ont une sorte de dévotion assez, assez spectaculaire à regarder et qui force l'admiration, puisque j'ai l'impression que dans l'hôpital, sans la volonté humaine, l'hôpital public ne tiendrait plus. Et qu'aujourd'hui, il tient beaucoup sur la volonté du corps soignant. Et sinon, j'ai l'impression que ça ne tiendrait plus. Et c'est que ça tient vraiment sur la volonté humaine. Et il y a un dépassement de soi que je trouve assez fantastique, même à regarder en tant qu'acteur. Et du coup, d'interpréter une certaine réalité, puisque en plus, j'ai pas dedans dans cette série, le parcours de mon personnage n'est pas totalement clean, mais je trouvais ça assez intéressant, puisque ça raconte, par exemple, sur mon personnage, il y avait presque une question de la légitimité au diplôme. Qu'est-ce que ça veut dire être diplômé ou pas? Est-ce que ça vous donne une compétence ou pas?
Et tu dirais que tu fais un choix de film pour, enfin, en tout cas, faire passer des messages politiques ou...
Non, je fais des films que j'ai envie de faire.
Tout simplement.
Ouais, vraiment. Après, il y a des films auxquels vous êtes plus sensible, des sujets. Mais par exemple, j'essaie de ne pas me répéter forcément, de ne pas me dire... J'ai pas de message. En vrai, je ne suis pas politicien.
Oui, c'est sûr. C'est vrai. Après, c'est vrai que, d'une certaine manière, la culture, je ne sais pas si elle fait passer une idée, mais en tout cas, parfois, elle marque une temporalité et va sous-entendre quelque chose.
Oui, elle marque une époque, elle peut marquer une temporalité, elle peut faire passer des fois des messages, des fois non. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de faire des films différents. Par exemple, moi, le film « Du monde est à toi », enfin, de Romain Gavras, j'aimais beaucoup le discours qui tendait à montrer... parce qu'on montrait un gars dont le rêve ultime était d'avoir un coin de tranquillité dans ce monde de fou, un petit pavillon, un petit truc. Et j'aimais ça, l'idée que les rêves deviennent étroits. Je trouvais que c'était aussi un... Mais j'ai pas de message à faire passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre des rôles et de défendre une histoire auquel j'adhère ou pas. Mais en tout cas, mon idée, c'est de défendre des rôles. Après, le message, je trouve que c'est plus la responsabilité des fois des réals. Un acteur, pour moi, il incarne, il joue et il défend son personnage. Bien sûr qu'il y a une opinion, il peut y avoir une opinion dans un film, il peut y avoir des choses qui prêtent à débat, et c'est bien.
Parce que, alors, tu vas me dire que peut-être que je suis allé chercher hyper loin, mais je suis retombé sur ce film Le Nom des gens.
Ouais.
Où tu es, allez, t'es pas beaucoup à l'écran.
Je suis une seconde.
T'es une seconde.
Ouais,
et
ouais,
en fait,
deux.
Ta réplique, c'est juste, oh là là, sur, dans un contexte où en fait, Le Pen vient d'arriver au second tour des présidentielles face à Chirac. Et je me suis juste demandé si t'avais eu le même sentiment lorsque c'est arrivé dans la vraie vie, tu vois.
Tu me parles du siècle dernier. Ouais, je me souviens qu'un pote m'a annoncé ça, je croyais que c'était une blague.
C'est vrai?
Ouais, ouais. Mais bon, j'étais pas à l'époque très, très concentré sur la politique, ouais. À vrai dire. Parce que c'était... mais c'est vrai que c'est, ouais, c'était un truc quand même. C'était waouh.
C'était fort quand même.
C'était un événement politique fort. Ouais.
Où on était tous relativement scotchés, quoi.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais après, si tu me dis qu'elle est... Je réponds encore, hein, tu vois. C'est pour ça que je sans faire de démagogie, où je te dis, ouais, pour moi, le symbole de ces années, bah, ça a été... En France, en tout cas, c'était plus 98, et la France qui gagne. C'est Zidane président.
Ouais, Zidane président.
Voilà.
Bon, tout doucement, on arrive vers Vincent doit mourir, qui va sortir en salle le 15 novembre.
Ouais.
Le personnage rentre dans le film en faisant une petite vanne au stagiaire et fait un gros bide.
Ouais.
Est-ce que tu as eu des envies de stand-up à une époque?
Ouais.
C'est vrai?
C'est vrai que ça, c'est assez marrant. En fait, non, je n'ai pas eu des envies de stand-up. C'est-à-dire que je me disais, c'est quoi ce métier d'acteur? Quoi, je commençais les trucs. Et j'avais une fascination que j'ai toujours, d'ailleurs, pour Raymond Devos. Parce que je trouvais qu'il jouait avec les mots de façon assez formidable. Mais du coup, voilà, ma passion s'est arrêtée là parce que je me suis dit, pour faire du stand-up, il faut être drôle. Mais, voilà.
T'avais pas ce humour-là?
J'avais pas cette capacité-là. En tout cas, être drôle. Et du coup, je trouve que c'est un métier très dur, le stand-up. Et il faut avoir une sorte de brio comme ça et puis il faut le sentir. Et développer un univers qui est le sien. Et c'est pas la voie, moi, qui m'a semblé la plus évidente pour moi. Moi, j'aimais bien m'exprimer à travers des personnages et en retrait pour mieux laisser parler les persos.
Pour Vincent doit mourir, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet?
Ce qui m'a séduit, c'est d'avoir une histoire d'amour dans un monde violent. Déjà, ça, c'est la première chose. Je me suis dit, ouais, tiens, pour la première fois, je lis une histoire d'amour. C'est une rencontre aussi avec Vima Laponce, dans un monde violent. Bon, après, j'avais l'impression que déjà, voilà, une histoire d'amour qui, pour une fois, je pouvais situer. Alors que d'habitude, les histoires d'amour, j'ai l'impression que les gens n'ont aucun problème et que tout va bien. Puis le fait surtout que ce soit un mélange des genres, que ce soit un film pré-apocalyptique, un film touchant à la comédie noire, au film de zombies, au burlesque, c'est des choses qui me plaisaient. Et tout ça réuni dans un même film, avec surtout l'histoire d'un gars que tout le monde veut tuer, personne ne sait pourquoi, mais surtout des corps du quotidien qui s'entremêlent et qui se mêlent. Chose qu'on peut voir dans ce baladon un peu partout. Et justement, j'aimais bien que ce soit pas des mecs aux tablettes de chocolat surarmés ou suréquipés. Des fois, il y a même des trucs bizarres où c'est une baston dans la rue, les mecs, ça passe pas, et tout d'un coup, ils font... Il y a un truc qui est super marrant. Et là, j'aimais beaucoup le côté sale de la chose. Un peu dégueulasse, un peu quotidienne, parce que je trouvais que justement, il y avait un truc touchant, mais même comme les scènes avec de rencontre avec Vima Laponce, j'aimais que ce gars n'assure pas totalement qu'elle non plus, qu'on soit pas dans ce diktat de « ouais, on doit forcément assurer quand t'as une première rencontre », ce que dit souvent le cinéma, où ping, ping, pong, et voilà, il se passe des trucs. Alors que c'est le côté un peu décalé, un peu drôle de la chose, le fait de se faire taper sur un stagiaire, j'imagine que n'importe quel stagiaire fait ce que fait le gars dans le film. Je pense que beaucoup de stagiaires, au moment quand on leur a fait la blague de trop sur le café, ont un jour voulu prendre le café et le balancer à la gueule du mec qui leur a fait l'énième blague sur un café. Et je trouvais qu'il y avait, en fait, il y avait un projet justement qui décrivait tous les types de violences faites, parce que j'ai de la chance, c'est un film familial, c'est-à-dire qu'il y a une panel de combats qui va de 7 ans à 77 ans dans le film.
C'est vrai qu'il y a un combat très fort bourrayesque, si j'ose dire, quand tu te bats dans la boue.
Ce qu'on appellera la boue, qui est une fosse sceptique, on peut le dire, qui est ouais. Dans la merde. Pardon, ça se voulait pas vulgaire, mais puisque autant dire la chose, mais c'était effectivement de la boue. Mais dans le scénario et dans le film, ce n'est pas de la boue. Et ça, c'était génial, puisque tout ça, ça a été chorégraphié. C'était comment, à travers le langage du corps, on pouvait exprimer des choses. En fait, on n'avait pas envie de faire un film qui soit un pamphlet ou un film moraliste, mais plus un film qui passe par les corps et qui résonne Je veux dire, la violence morale, la violence faite socialement, la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, aux vieux. Tout ça était dans le film, et ça passait par des combats parfois absurdes, parfois hyper violents. Et c'était le mélange de ces tonalités qu'on pouvait raconter à travers tous les combats que je trouvais super à jouer. Et puis, avec un film, pour moi, qui parle aussi de notre époque. Et je trouvais l'une des questions aussi hyper belles du film, c'est comment on regarde l'autre. Parce qu'en fait, ce mec est victime, tout d'un coup, on le désigne. Où on ne sait pas comment et tout, enfin on ne sait pas pourquoi, mais très vite, de toute façon, ce n'est pas la question du pourquoi, mais c'est la question du comment qui compte. Ce que je veux dire, c'est que la question du comment, pour moi, elle m'intéresse plus aujourd'hui. Pourquoi ? Non, moi, comment on fait quand on est face à de telles situations? Et c'est ce que j'aimais dans ce film-là, la question du comment, et de ne pas se focaliser sur le mais pourquoi. Et tout d'un coup, le fait que ce gars-là soit par un. Sorte de phénomène désigné comme l'ennemi public numéro un, comment tout d'un coup, quand la rumeur devient intenable, comment on fait pour résister à ça? Et je trouvais que la question du regard, de comment on regarde l'autre et comment on regarde celui à qui est désigné coupable, il y avait quelque chose que je trouvais assez fort politiquement.
Dernière question pour conclure, je te le disais, du coup je t'ai découvert autrement, pas qu'à travers tes films. Quel acteur dont tu avais une image bien précise a réussi à la déconstruire lorsque tu l'as rencontré?
Je sais pas, le souci c'est que très vite, plus j'ai fait ce métier, plus j'ai compris que j'avais pas d'image, j'avais pas de truc. Je sais pas, je me fie jamais à la réputation des gens et tout, je les rencontre. En fait, je m'en fous. Que tu viennes avec ton palmarès d'avant, d'après, de bien ou pas bien, de personnalité, je me dis c'est la rencontre et comment on se comporte quand on se rencontre l'un et l'autre, tu vois. C'est ça qui a du sens pour moi, le avant et le après. Sinon, ça veut dire que c'est terrible ce rapport. Si tu tiens compte que de dire des gens sans te faire ta propre expérience avec la personne, ça revient à la politique de la rumeur ou de... voilà, pour moi, les actes définissent. Donc, si je te connais pas et qu'on se connaît pas, bah, ça va être les actes qu'on va faire ensemble qui vont nous définir et pas ceux que tu as fait avant ou ceux que tu feras après. Et j'essaie de me fier à ça quand je rencontre un acteur ou une actrice. C'est comment notre collaboration va être fructueuse ou pas, comment on va s'aider l'un et l'autre, parce qu'on a besoin de l'un et l'autre pour essayer de travailler sur le film. Ouais. Mais la réputation des gens, le truc n'est pas un truc qui m'intéresse. En vrai, à vrai dire, comme ces questions, qu'est-ce que tu as mangé hier, ou tout ça, je m'en fous. Si tu t'aimes le hachis parmentier ou que tu manges du saumon, je m'en fous royalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est plus ce côté, justement... Du moment présent et de quand on construit un film ensemble. Et souvent, en plus, le travail d'un acteur, c'est de s'intéresser aux autres et pas sur sa petite personne. Il travaillait avec tous les membres de son équipe. Nous, sur Vincent doit mourir, on avait beaucoup de chance qu'on avait des techniciens de fou. Je parle de Manuel Dacos, mais parce que c'est un grand, grand chef opérateur. Comment il épousait le langage technique de toutes ces bagarres qui étaient mis en scène. Et ce que je veux dire, c'est que tu construis un film avec les autres. Ouais. Et je pense qu'il faut au contraire, moi, les trucs de réputation, puis il y a souvent de la connerie en plus. Ouais, dans une époque de connerie, je veux dire, une connerie 30 secondes, tu en fais un court extrait, ça devient un propos. C'est con.
C'est vrai. Bon, je te rappelle, Vincent doit mourir, c'est le 15 novembre en salle. Ouais. Merci beaucoup, Karim.
Merci à toi.
À très bientôt, j'espère.
Bah, pourquoi pas, avec plaisir.
Sur d'autres personnages.
Ouais. Avec plaisir.
Merci.
Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Pour être tout à fait honnête, on a un petit peu manqué de temps pendant l'enregistrement à cause d'une mise en place quelque peu compliquée. Du coup, j'ai un peu rushé sur certaines questions qui manquaient un peu de nuances, mais on apprend de nos erreurs et on vous réserve un prochain épisode plein d'anecdotes très bientôt avec un autre acteur français, Olivier Rabourdin. N'hésitez pas à nous suivre pour être tenu au courant des prochaines sorties. Ça se passe sur les comptes Instagram de PixPlus, @PixPlus_FR, et de Pix, @Pix_FR, et sur le mien, @MaxDMR. Merci aussi à mes ingé-sons préférés, Quentin Pascal, Gergely Bossicard et Jean Oliquier qui ont fait le mix, et à David qui s'est chargé de la prise de son et de la vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode de Caractère.
Ce podcast vous a été proposé par PixPlus. Retrouvez les films de Karim Leclou sur PixPlus, sur la plateforme pix.be et à la demande dans le catalogue VOD de Proximus. Pour plus d'informations, jetez un œil à la description.